Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour, l'image forte de cette journée sera sans aucun doute l'entrée du président Hollande et de la chancelière Merkel dans l'immense nef de l'ossuaire de Douaumont. À quelques kilomètres de Verdun, le monument abrite les restes de 130 000 soldats inconnus, français et allemands. Ce sont aujourd'hui les commémorations du centenaire de la bataille de Verdun. Une suite d'attaques et de contre-attaques acharnées de février à décembre 1916. Dès la fin de la guerre, la France en a fait un symbole de sa résistance. Écoutez l'éclairage de l'historien Antoine Prost, le président du conseil scientifique de la mission du centenaire.
Verdun devient le symbole de la résistance française en 1907. Après 1916, ça va continuer et il va y avoir deux mémoires qui vont se constituer. Une mémoire officielle qui est la mémoire de la résistance. Les Allemands ne sont pas passés, ils ne nous ont pas battus. Ce n'est pas une victoire, c'est une défense qui a été triomphante. Et puis vous avez une mémoire combattante qui se structure et qui est une mémoire de souffrance, de deuil et une mémoire pacifiste, une mémoire du plus jamais ça. Mais alors, il ne faut pas opposer ces deux mémoires, parce qu'entre la mémoire officielle et la mémoire combattante, il y a un lien assez fort. La bataille de Verdun, c'est une bataille juste, c'est une bataille égalitaire. C'était un grand sacrifice. Mais pratiquement toute l'armée française a fait cette bataille.
Des propos recueillis par Simon Tivol. Les représentants des filières pétrole et transport ont été reçus à Matignon pour faire le point sur l'approvisionnement des carburants fortement perturbé depuis une semaine. C'était hier. Nous ne pouvons pas parler d'une crise qui est terminée, a dit le ministre des Transports Alain Vidalis, mais la situation s'améliore. C'est le cas notamment dans le Nord-Ouest. En Auvergne-Rhône-Alpes, en revanche, c'est le statu quo avec 464 stations en rupture ou difficulté sur 1780. Des arrêtés de limitation de carburant par jour et par véhicule ont aussi été pris par les préfets de Corse. Manuel Valls a laissé la porte ouverte à des discussions sur le projet de loi, mais il reste ferme sur l'article 2. Il agace de plus en plus les membres du gouvernement. En pleine crise sur le carburant, le ministre de l'économie Emmanuel Macron a lancé sa grande marche hier. Une vaste opération de recueil des doléances des Français dont il veut faire le socle d'un plan d'action afin de changer en profondeur le pays. L'objectif, c'est de consulter 100 000 personnes d'ici le mois de juillet. À Amiens, 600 bénévoles ont commencé cette campagne de porte-à-porte hier. Mais ce n'est pas si facile hors période électorale, Marie-Gaëtane Comte.
Questionnaire sous le bras, suivi de Pierre et Nordine qui portent le sweat à capuche En Marche du nom de leur mouvement politique. Jean-Bernard Grubis, coordinateur dans la Somme, se lance et sonne à la première porte.
Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger avant le repas. On fait du porte-à-porte dans le cadre de la Grande Marche qui est lancée par Emmanuel Macron.
Oui, mais ça ne m'intéresse pas.
Ça vous intéresse pas ?
Je vous remercie.
Bon, monsieur, merci à vous en tout cas. Au revoir.
Pas intéressé, pas le temps, et l'une des réponses des Amiénois est aussi...
Je ne connais pas,
d'accord.
Je ne peux pas me lancer dans un débat.
Oui, oui.
Mais quand cette dame se décide enfin à sortir la tête de sa porte, elle explique qu'elle ne croit plus en rien.
On fait quoi ? Nos parents se sont intéressés plus ou moins. Là, j'ai une petite fille de 5 ans, je me dis moi déjà c'est compliqué. Et elle, ça va donner quoi ? Et puis ça sert à rien que je passe ma vie à avoir peur. On a déjà cette difficulté pour survivre.
Les marcheurs vont avoir du mal à convaincre dans cette période de tension, concède Jean-Bernard Grubis.
On est hors contexte élection. On est aussi hors contexte d'un schéma classique politique. On n'est pas, vous êtes de droite, vous êtes de gauche. Bon, il faut qu'on prenne le temps aussi de leur expliquer la démarche d'Emmanuel Macron et puis après d'entamer le dialogue avec les uns et les autres.
Leur objectif est de remplir 8000 questionnaires à Amiens.
Le mouvement d'Emmanuel Macron En Marche, lancé en avril dernier, compte, selon le ministre de l'économie, 50 000 adhérents. 12 000 bénévoles participent actuellement à la campagne de porte-à-porte lancée hier. Le ministre de l'économie qui laisse toujours planer le doute sur ses ambitions présidentielles. Les rendez-vous de Béziers organisés par Robert Ménard se poursuivent après un samedi houleux. La députée du Vaucluse, Marion Maréchal-Le Pen, a claqué la porte. Elle reproche à Robert Ménard de nier le caractère incontournable du Front National dans l'actuel système politique français. Robert Ménard, qui vient de lancer le mouvement Ose ta droite, a déclaré n'être le marchepied de personne et notamment pas du Front National. 2 à 3000 personnes ont par ailleurs manifesté hier à Béziers contre ces rendez-vous organisés par le maire. La journée internationale des casques bleus est célébrée aujourd'hui par l'ONU. Il y a 16 missions de maintien de la paix actuellement dans le monde. Les casques bleus opèrent sur des terrains de plus en plus complexes et les Nations Unies cherchent à évoluer vers une force permanente capable de se déployer plus rapidement. Depuis le début de l'année, les missions de l'ONU sont aussi entachées par des accusations de viol. 44 soldats sont accusés d'abus sexuels, dont 29 en Centrafrique via la MINUSCA. Saber Djendoubi, vous nous expliquez quelles sont les nouvelles mesures de prévention.
La MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, impose des mesures de prévention à ses personnels civils et militaires. Le premier à subir ces mesures, c'est le tout nouveau contingent de la Mauritanie installé depuis quelques mois à Bambari. Bambari dans le centre du pays, Bambari, lieu où ont été enregistrés le plus de cas d'allégations de viol. C'est dire le poids qui pèse sur les épaules du tout nouveau chef de ce bataillon, le colonel Sidi Elverik. Le détail de ces mesures.
D'abord, c'est isoler un peu les militaires. C'est d'ailleurs la MINUSCA qui l'a fait, mais en tout cas au niveau des camps des déplacés, là où nos hommes sont, on a clôturé autour d'eux pour les isoler de la population. On entreprend de la sensibilisation. On a déjà profité subi une formation de formateurs pour notre contingent, et ces formateurs ont été déjà dans les différents sites sensibilisés pour former des gens sur place.
Le chef des casques bleus mauritaniens compte aussi, mais surtout sur le professionnalisme de ses soldats.
Nous avons des avantages, nous avons des valeurs et une religion sur lesquelles on peut s'appuyer pour éviter de tels abus.
Selon le dernier rapport annuel du secrétaire général de l'ONU, ces derniers mois, près d'une trentaine de cas d'agression sexuelle auraient été commis par des casques bleus ici, en Centrafrique.
En Iran, le conservateur modéré Ali Larijani a été largement réélu président du Parlement avec 173 voix contre 103 à son adversaire réformateur. Vote organisé à la suite d'élections législatives qui ont permis un rééquilibrage des forces entre conservateurs et réformateurs alliés aux modérés du président Hassan Rouhani. Rééquilibrage néanmoins insuffisant pour permettre à ces derniers de prendre la présidence du Parlement. La météo, Météo France lance une nouvelle alerte orange aux orages pour 7 départements de l'ouest de la France. Vigilance qui court de midi jusqu'à demain midi 13h. Hier après-midi à Paris, 11 personnes dont 8 enfants ont été blessées par la foudre, dont une grièvement.